Chaque situation, chaque phénomène, chaque modalité, chaque forme que prend les mobilisations est propre aux peuples sur leur territoire. Mais à la différence maintenant du monde d'il y a 40 ans, nous sommes tous des voisins par ces outils que sont les nouvelles techniques de communication, qui fait que nous savons plus ou moins ce qui se passe à côté. Donc là, il y a le tenseur, je dirais, local et le tenseur national. Un Marocain qui manifeste sait qu'actuellement les Yéménites se battent, que les Libyens ont pris les armes et que les Syriens se battent contre leur armée. Donc, que les Bahreïniens se font occuper comme à une quelconque Hongrie par l'Arabie Saoudite non soviétique. Je dirais, c'est le parallèle avec ce qui s'est passé en 89 est très troublant. Donc, la question que je me pose, c'est est-ce que tous les acteurs, en fait, comme à chaque fois dans une situation, raisonnent avec peut-être des modèles anciens, sans forcément que ce soit quelque chose de nouveau. Là, ce que vous faites, c'est en gros, globalement, l'ensemble du monde, considérer que par nature, vous êtes, parce que vous êtes arabe, berbère, ou je ne sais quoi, vous êtes incapable de vous battre, voire de mourir pour votre liberté, et pour des choses bizarres, la démocratie, une constitution, je ne sais quoi, la justice sociale, c'est bizarre, arabes qui veulent ça, c'est une étrangeté. Est-ce que les peuples, les populations qui viennent à chacun avec une mobilisation, je dirais, limitée, le logement, la question du travail, est-ce qu'ils ont conscience de ça et comment ils le vivent? Et puis pour poser la question, comment dans tout ça, les forces politiques qui fondent leur action politique sur la religion, frères musulmans ou équivalents marocains, je ne connais pas la situation locale, comment se déploient-ils? Est-ce qu'ils avancent? Est-ce qu'ils se montrent? Est-ce qu'ils suivent? Ben, je ne sais pas. Voilà. Et donc, la relation à l'extérieur, ils ont, en même temps que vous bougez, ça bouge ailleurs, et tout le monde regarde avec une situation, ben, globalement, le reste du monde, à la différence d'un Hongrois ou des Polonais, le monde, apparemment, ne vous regarde pas d'un œil favorable. Comment les Marocains le vivent-ils? Et puis, vous n'êtes pas tout seul. Ça fait penser à la situation de 1948. Quand dans l'ensemble du continent européen, il y a eu des soulèvements armés, populaires. Voilà.
D'accord. Merci. Peut-être voir s'il y avait peut-être une autre question. Voilà. Oui. Comme ça, ça permet d'en prendre quelques-unes.
J'ai deux petites questions. Parce que c'est ce que j'entends dans les médias ou ailleurs me font dire que la question de la remise en cause du roi n'est pas d'actualité. Il faudrait savoir ce qu'il en est exactement. Deuxième question, c'est j'ai entendu dire aussi qu'à la suite de ces manifestations au Maroc et aussi ailleurs, au niveau économique, le gouvernement avait lâché du lest, avait pris des mesures plus sociales. Alors qu'en est-il?
D'accord. Oui.
Dans le prolongement, oui. Que le roi, la décision de la royauté n'est pas en question, j'ai pu comprendre quand même qu'il y avait quand même une volonté d'une certaine monarchie constitutionnelle. Et qu'est-ce qu'il en est de ça? Et ça voudrait dire quoi? Et qu'est-ce que serait quelle modification, si c'est obtenu, ça entraînerait pour la structure de la royauté, si on peut dire.
Une première série de réponses, parce que on reprendra une deuxième série, ça fait déjà pas mal. Et puis on reprendra une deuxième série.
Écoutez, d'abord une remarque sur la forme. J'aime pas trop les questions et réponses.
Oui.
Non, mais oui. Bon. Donc, maintenant que les questions sont posées, il n'y a pas de problème. On peut en débattre entre nous. C'est vrai que je vais vous donner mon point de vue, à moi, qui n'engage que moi. Mais moi, j'aime bien entendre aussi les autres, leur point de vue. Bon, mon regard, je l'ai donné, moi, tout à l'heure. Je l'ai exposé. Maintenant, j'aimerais bien avoir le regard des autres sur ce qui se fait dans mon pays d'origine. Bon. Alors, sur les trois petites questions donc posées, d'abord, je commence par la dernière. La monarchie constitutionnelle. Dans la constitution actuelle au Maroc, celle qui a été octroyée en 1962, qui continue, le Maroc est considéré comme étant une monarchie constitutionnelle démocratique, sociale. Eh bien oui. Non, Maroc, on ne fait pas les choses à moitié. Au Maroc, on fait les choses bien comme il faut. On est une monarchie constitutionnelle, démocratique et sociale. Alors maintenant, les revendications dans le mouvement du 20 février. Alors, on va trouver de tout, mais de tout, parce que c'est un mouvement qui est vaste, qui embrase en fait toutes les couches sociales au Maroc. Il y a des partis politiques qui font partie du mouvement qui réclament quoi ? C'est pas la monarchie constitutionnelle, parce qu'elle l'est déjà. On a une constitution au Maroc. Non, ils réclament la monarchie parlementaire. Une grande partie des partis de gauche qui soutiennent donc le mouvement réclament la monarchie parlementaire. Ça veut dire quoi ? Pour aller vite, le roi règne et nous gouverne pas. Comme il se fait en Espagne, par exemple. Voilà. Ça, c'est une demande, mais pas du mouvement 20 février, pour ne pas confondre tout. Parce que les revendications que j'ai citées tout à l'heure, ce sont les revendications du mouvement 20 février. Le mouvement 20 février ne revendique pas ni la monarchie parlementaire, ni la République marocaine. Ce sont les partis qui soutiennent le mouvement, qui, de l'intérieur du mouvement, revendiquent la monarchie parlementaire. C'est pourquoi tout à l'heure, dans mon analyse politique, j'ai dit, est-ce qu'ils sont capables justement de faire d'arriver à leur revendication en se basant sur ce mouvement ou pas ? C'est clair ? Deuxième question, donc la deuxième, c'était sur la remise en cause du roi n'est pas d'actualité. C'est vous. Alors, en tant que mouvement 20 février, effectivement, je viens de le dire, le mouvement 20 février n'est pas un parti politique. N'est pas un parti politique. Et donc, il n'a pas dans son agenda de renverser le régime en place. Par contre, il y a des partis politiques dans le mouvement 20 février, quelques partis politiques, deux, que j'ai cités tout à l'heure, pas ceux qui réclament la monarchie parlementaire. Nej Démocratie, c'est-à-dire la voie démocratique de gauche, et justice et bienfaisance, l'ADNIS. Ceux-là, ils l'ont déjà dit, ils l'ont déclaré. Ils sont pour la République. Ils réclament la tête du roi. Mais attention, là, je ne parle pas en leur nom, parce que ce n'est pas la revendication du mouvement 20 février. On ne fait pas porter donc, au mouvement 20 février une revendication qui n'est pas la tienne. Quelles sont les mesures apportées par le gouvernement ou l'État marocain ? Parce qu'au Maroc, ce n'est pas le gouvernement qui apporte ou pas. C'est le fait du prince. Quand le roi décide, c'est lui qui octroie ce qui a été fait, même avant le 20 février, juste après le déclenchement de la révolution tunisienne, et sentant que le vent souffle un peu sur la région, sur l'Afrique du Nord, il va commencer par acheter presque toute la réserve de la réserve mondiale en céréales. Le Maroc avec l'Algérie. Ils ont acheté presque la totalité de la réserve en céréales, prévoyant justement, parce qu'ils savaient, qu'allait être touché aussi par le mouvement. Et donc, pour prévenir, ils achètent les céréales pour ne pas être obligés d'augmenter les prix des denrées alimentaires. Première réponse, sociale. Deuxième réponse, il va tout de suite inviter, on va dire ça dans les termes diplomatiques, les membres ou les militants de l'association des diplômés chômeurs dont j'ai parlé tout à l'heure, qui a pour l'instant 10 ans d'existence, non autorisée. 20 ans. Autant pour moi. 20 ans. Donc, ça veut dire que c'est un ancien mouvement qui existe depuis tout le temps. Il les invite pour justement leur octroyer 4000 postes dans la fonction publique. C'est des choses qui tombent comme ça, du ciel. Troisième réponse, troisième mesure, il va augmenter le budget de la caisse de compensation pour ne pas avoir, enfin, pour ne pas être obligé d'augmenter le sucre, l'huile, etc. Donc il va augmenter le budget qui a été voté l'année dernière par le Parlement de 15 milliards de dirhams. Il était à 17 milliards de dirhams. Le budget augmente à 32 milliards de dirhams. Faites le compte, 15 milliards de dirhams d'un coup. Ce sont des mesures, on va dire, imposées par le vent de révolution qui est venu de... Ça, c'est avant même que le mouvement de février ne commence. Mais ils savaient déjà, il y avait des soubresauts. On savait qu'il y avait un mouvement qui se préparait. Donc voilà un peu les mesures. Mais les Marocains ne sont pas dupes. Le mouvement n'est pas dupe. Avec toutes ces mesures, le mouvement a eu lieu et il continue. Et il continue parce que c'est de la poudre aux yeux. C'est de la poudre aux yeux que de faire croire aux gens qu'on va vous donner 4000 emplois dans la fonction publique. Moi, je connais les Marocains, mes amis marocains, quand je rentre au Maroc pour aller chercher un papier à l'office, je sais pas, de l'état civil, par exemple, des dizaines que... Enfin, ou alors je les connais parce que ça fait longtemps que je pars au Maroc pour les... à tourner les doigts, à ne rien faire. Et on les paye à combien? Je ne sais pas, 1500 dirhams, 2000 dirhams, je ne sais pas. Appelez ça des emplois. Voilà.
Donc, peut-être, je vous propose qu'on continue. Donc, des remarques, des... Oui.
Ah oui.
Il reste une question. Oui, c'est vrai, la première question...
La première question est très importante, c'est la solidarité internationale.
Ouais. Ah oui, voilà.
La solidarité internationale, ça touche tout le monde. Les Marocains, comme les Français, comme les Algériens, comme les Tunisiens, savent très bien ce qui se passe chez les voisins, ou même un peu plus loin. C'est vrai que depuis l'arrivée des satellites, des antennes paraboliques, on est au courant de ce qui se passe chez les autres. Donc cette aspiration à la liberté... à la démocratie, elle est naturelle chez tout le monde. Et le peuple marocain fait partie de ces peuples, de cette planète qui aspire, parce qu'on ne peut pas tenir un peuple, on laisse, pendant des années et des années. Quand il y a un déficit démocratique, quand il y a un déni de démocratie, un déni de droit, eh ben, ça finit par exploser. Alors, maintenant, c'est vrai qu'il y a une cause, on va dire, qui est commune là-bas, c'est la cause palestinienne. Et ça, depuis des lustres, hein, c'est pas que depuis le mouvement 20 février. La question palestinienne au Maroc, par exemple, ou en Algérie, ou en Tunisie, c'est une cause qui est... Enfin, c'est un combat... qui est porté par tout le peuple. Alors, c'est vrai qu'il y a des approches différentes. Il y a l'approche des islamistes, qui voient donc la question pana-arabique, la umma al-arabia, la nation arabe, et font tout pour cette ferveur, donc pour pousser les gens à des sacrifices, on va dire, un peu... Et puis, il y a l'autre approche, celle de la gauche, on va dire, qui considère que la question palestinienne est une question centrale, mais qui fait aussi partie de toutes les questions de tous les autres peuples opprimés. D'où la recherche, donc, du soutien à l'international. Si je prends le mouvement des droits de l'homme, je suis témoin parce que je suis en France depuis 80-83, avant même la naissance de mon association, l'ASDOM, dont j'ai promis de ne pas parler tout à l'heure, mais bon, je suis obligé de le faire. Depuis 83, on a créé cette association justement pour alerter, pour sensibiliser et pour chercher du soutien international. Et on a trouvé des démocrates français, des amis, des camarades, qui étaient même avant nous dans cette logique, qui avaient constitué les fameux comités de lutte contre la répression au Maroc, bien avant l'ASDOM. Cette interaction, cette solidarité internationale joue en faveur des peuples opprimés. J'appelle pas à l'ingérence des États, comme ce qui est en train de se faire en Libye, en Côte d'Ivoire, et j'en passe, la Syrie bientôt. Mais j'appelle à la solidarité internationale des peuples. Voilà.
Donc, peut-être Maurice, ensuite Léo. Et puis après, il y a encore d'autres. Oui.
Vous n'avez pas évoqué la part que les femmes, les féministes pour l'égalité des droits, prennent au Maroc à ce mouvement que vous avez présenté. On a suivi ces années dernières quelques avancées, plus dans les lois que dans la réalité, semble-t-il, sur le terrain, en matière d'égalité réelle des hommes, des femmes et des hommes. Où en est-on exactement? Et je fais immédiatement le lien avec la dimension laïque, parce que les deux sont intimement liés, c'est-à-dire en particulier de la séparation du politique et du religieux. Cette idée qui a émergé très fort dans les mouvements auxquels on a assisté, que ce soit en Tunisie, en Égypte et ailleurs, ou en Palestine. Parce que, il faut être clair là, ce parti religieux qui est pour une république, si c'est renversé la monarchie, même tempérée de Mohamed VI, pour la remplacer par un État, une république théocratique comme celle qui sévit en Iran, je ne vois pas où est le progrès. Je dirais même que sur certains plans, ce serait une régression, puisque ça ne serait plus un État de droit, même monarchique. Voilà, donc je pose cette question parce qu'elle me semble capitale. Est-ce qu'il y a un débat interne, justement, à ce mouvement sur cette question, sur ces questions-là? Et en somme, plus généralement, où en est le mouvement laïque au Maroc? Voilà ma question.
Peut-être Léo, oui.
Oui. Tout à l'heure, vous avez parlé des espaces de liberté qui, au Maroc, ont été arrachés. Mais au titre des échanges de la connaissance internationale, vous savez comme moi que toutes les libertés authentiques et tous les droits ont été arrachés. Jamais par un gouvernement dit populaire au commandement. La sécurité sociale, vous avez parlé, mais en France, elle a été arrachée par les résistants, le sang de l'or, par des jeunes, des femmes de 16-17 ans. Ça a été arraché. Ça n'a pas été un droit qui est venu comme ça. Faux. Qui a été arraché. Imposé. Ensuite, quand vous avez parlé, et c'est intéressant, des marxistes, léninistes marocains, détenus, qui ont été littéralement intégrés, pour ne pas dire désintégrés. Mais on voit peut-être que la notion d'institution est appelée elle-même à laminer beaucoup d'esprit. Le ministre de la Jeunesse et Sport tunisien, nouvellement, au bout de quelques semaines, il est parti. Il ne supportait plus d'être dans cette institution. Parce qu'il a dit « je suis cuit là-dedans ». Ça veut dire que pour nous, à l'échelle du monde, certes, des élections libres et tout, mais on peut dire qu'elles ne suffisent pas. Ça veut dire que si les citoyennes, les citoyens deviennent passifs, ça n'est fini de leur propre conscience de citoyen. Ils votent. Et ils disent, et puis pas plutôt ils ont voté, ils disent, ah ben oh, j'ai voté pour un tel et il ne fait pas son boulot. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait plus rien. Ça veut dire que la question fondamentale à l'échelle du monde, on s'aperçoit que les élections, même libres, ne suffisent pas. La représentativité et le pouvoir donné à une minorité se retournent automatiquement contre la majorité du peuple. Parce qu'ils disent qu'il faut bien gérer. Ça veut dire, voilà.
Oui, allez-y.
Je me présente d'abord, donc je suis marocain, je suis un corruption en France, je suis un Mazir Congo. Donc là, vous avez plutôt un avis dans aucune activité politique. Donc vous avez plutôt un avis d'un citoyen marocain, normal, même si on est tous normaux. pour dire que voilà, pas de politique, pas de civil politique. Donc moi d'abord, avant de discuter de beaucoup de points sur lesquels je ne suis pas d'accord tout à fait avec vous, je voudrais d'abord poser quelques questions concernant donc, le mouvement du 20 février, notamment votre position dans ce mouvement, et est-ce que vous participez à la prise de décision, est-ce que vous connaissez vraiment ce qui se cuisine à l'intérieur, pour que... donc d'une part, donc, votre position dans ce mouvement, et d'autre part, poser quelques questions concernant ce mouvement, par exemple, au fait, 20 février, il y a beaucoup de revendications, mais moi, ce que je regrette, c'est que il y a pas de, vous ne proposez pas forcément des solutions alternatives. Par exemple, on veut la démission du Parlement, le gouvernement, mais qui sont les personnalités que vous proposez à la place de ces gens qui sont aujourd'hui au gouvernement. Par exemple, en Égypte, on savait qu'il y avait le Baradei, on savait qu'il y avait des opposants qui sont d'étrangers qui ont pris la parole et qui ont dit « Nous, on est prêts à rentrer en Égypte pour prendre le relais. » Mais au Maroc, qui sont ces personnalités? Si vous voulez connaissez, moi, autant que citoyen marocain et la majorité des Marocains n'ont pas de nom. Moi, je n'ai pas le nom aujourd'hui de quelqu'un qui pourra... de la place. Après, le problème aussi, c'est que je pense que 20 février, c'est une centaine de jeunes marocains. Il n'a pas encore réussi en fait, à créer un mouvement de masse au Maroc, donc à motiver, à faire bouger la population, parce que, si vous voulez, la révolte en Tunisie, en Égypte, c'est pas que les élites en fait, de la société ou les gens qui sont conscients, politiciens, qui ont fait le changement, mais c'est plutôt vraiment la base de la population. C'est le vendeur de légumes et de fruits, c'est le maçon, c'est vraiment les ouvriers. Alors qu'au Maroc, moi, quand je vois 20 février, c'est plutôt une centaine de jeunes, notamment les diplômés chômeurs qui manifestent. Mais si je prends l'exemple de ma ville, mes voisins et la population, ils ne sortent pas forcément pour manifester. Et si jamais on arrive à créer ce mouvement de masse et à motiver toute la population à se révolter ou à adopter vos revendications, et comment vous arriverez à cadrer ce mouvement et ces gens? Parce que vous-même, aujourd'hui, vous me dites, vous avez des revendications, mais il y a des partis qui, en fait... de l'intérieur du mouvement ont d'autres revendications. Est-ce que vous arrivez vraiment à bien encadrer ce mouvement et à le maîtriser? Et le maîtriser surtout parce que chaque mouvement devrait peut-être aussi avoir des limites, parce qu'on voit ce qui se passe en Libye, parce qu'on voit ce qui se passe en Libye, on voit ce qui se passe en Syrie. Et si jamais demain la confrontation n'est pas une solution, il faut faire passer l'intérêt, la paix et la sécurité sur d'autres objectifs ou tempérer, comment vous arriverez à maîtriser en fait ces... Donc je veux dire, est-ce que c'est vraiment un mouvement bien organisé et vous avez vos moyens pour... Enfin, après, j'ai beaucoup de points sur lesquels je ne suis pas d'accord, mais je laisserai peut-être au fur et à mesure.
Merci bien. Peut-être étamer, et puis ensuite on fera de nouveau une réponse, puis on continuera l'échange.
Oui, ce qui vient d'être dit pose le problème de la structure de ce mouvement.
Plus fort, s'il te plaît.
Oui, ce qui vient d'être dit pose le problème de la structure de ce mouvement. Comment est organisé ce mouvement? Sur quelle base est-ce que vous avez une plateforme? Est-ce que vous avez une déclaration d'intention à laquelle ceux qui font partie du mouvement soient ici cette déclaration et donc ils entrent en connaissance de cause, ou c'est juste un groupe où il y a des gens qui viennent par sympathie, par indignation à ce qui se passe par rapport à ce qui se passe sur le terrain. Voilà, donc quelle est la structure réelle de ce mouvement? Comment fonctionne ce mouvement? Et pour terminer, quelles sont les perspectives? Parce qu'en même temps, ce n'est pas un mouvement, quel qu'il soit, ce n'est pas un mouvement pour prendre le pouvoir. Si j'ai bien compris, c'est un mouvement qui permet d'améliorer le sort des populations, du moins qui demande à ce que le sort des populations soit amélioré. C'est pas ce mouvement qui va prendre le pouvoir. C'est peut-être pour répondre un tout petit peu à la question qui est posée par rapport à l'encadrement. C'est pas ce mouvement qui va encadrer les tensions, les conflits qui pourront naître de part et d'autre dans la société marocaine.
Donc peut-être on laisse Ayad et puis ensuite on refera un...
Il y a alors quatre points. D'abord, les femmes. Nous avons à Paris un collectif qui s'appelle Pour un Maghreb des droits de l'homme, dont mon association, donc l'ASDOM, fait partie. Et nous organisons chaque année un colloque, soit au Sénat, soit à l'Assemblée nationale. Cette année, on a décidé de le tenir à l'Assemblée nationale sur la question de la femme, le rôle de la femme dans les mouvements qui touchent la région. Donc il y aura une intervenante de Tunisie, une intervenante d'Algérie, une Libyenne et une Marocaine. Donc je vais insister sur le Maroc. Alors pour le Maroc, on a tenu à ce que l'intervention soit faite par une jeune animatrice du mouvement 20 février au Maroc. C'est parce que nous considérons que le mouvement 20 février n'est pas, et là, en quelque sorte, je vais répondre en partie, il n'y a pas que les jeunes garçons dans ce mouvement, même si on dit qu'elle est portée par les jeunes, il faut savoir que le mouvement est porté par toutes, et je crois que je l'ai dit dans mon exposé, toutes les couches populaires au Maroc. Il y a les femmes, il y a les hommes, les jeunes, les moins jeunes. Je ne sais pas si vous avez vu quelques vidéos circuler où on voit tabasser la femme avec son garçon d'à peine 3-4 ans. Donc, il n'y a pas que des jeunes dans le mouvement. Asbata, à Casablanca, c'est un quartier populaire. Et les rassemblements se font plutôt dans ces quartiers populaires où il y a une implication de la population locale. Il n'y a pas qu'à Casablanca. C'est la première fois c'est la première fois où je vois un mouvement qui embrasse tout le Maroc. Il y a des villages, des petits villages que j'arrivais même pas à situer sur la carte géographique du Maroc. Moi qui suis marocain, j'entends des noms de petits patelins au fin fond du Maroc faire des rassemblements et des manifestations à l'occasion de ce mouvement le 20 juillet. Donc il n'y a pas que les jeunes diplômés, il n'y a pas que les jeunes dans le mouvement. Il y a toutes les couches. Et la femme est présente dans ce mouvement-là. Et donc il y aura une intervenante de ce mouvement le 18 juin pour ce colloque. Pour la situation de la femme en général, c'est vrai qu'avec l'arrivée de Mohamed VI au pouvoir, il a commencé par changer quelques articles de ce qu'on appelait la Modouana. Maintenant, on l'appelle le statut de personnel. Ce n'est plus la Modouana parce que ça faisait un peu ringard. Donc la situation de la femme a été quand même la cible de quelques changements. Alors, il y a eu deux mouvements. Il y a un mouvement initié par la gauche qui était pour, justement, l'amélioration de la situation de la femme et l'intégration, parce que le projet s'était porté par un ministre de gauche, Saadi, du PPS, parti de progrès et du socialisme. À l'époque, c'était le gouvernement d'Abdelrahman Youssefi, socialiste. Et le projet portait le nom de l'intégration de la femme dans l'économie, etc. Mais il y avait tout un mouvement qui allait dans ce sens-là, poussé par la gauche et les associations de défense des droits de l'homme qui appellent à la laïcité. Et puis, un mouvement contre, et qui, lui, était soutenu par les islamistes. Et je me rappelle, il y avait deux grandes manifs, une à Gaza et l'autre à Rabat, et qui ont rassemblé plusieurs... Enfin, ils ont rassemblé du monde. Le roi était obligé de jouer l'arbitre. Eh bien, il s'est avéré que celle de, je sais pas, de Rabat ou de Gaza, où il y avait les islamistes, était plus nombreuse de Gaza. Elle était beaucoup plus nombreuse. Donc, contre l'amélioration de la situation de la...
Il faut préciser que c'était des manifestations de femmes.
Oui, de femmes d'obédience islamiste. Le roi était obligé de trancher. Bon, ce dossier-là, c'est fini. C'est plus le gouvernement qui le prend en charge. Je m'en charge. Il a un clergé. Il a le conseil, ce qu'on appelle le conseil des oulamas au Maroc. C'est le clergé qui... Et il a trouvé donc une sortie après 2-3 mois. L'effet du prince. Donc c'est lui qui s'est chargé de modifier la Modouana, justement, en donnant quelques améliorations par-ci, par-là. Notamment le droit pour la femme de demander le divorce et puis de refuser que le mari se marie, enfin la polygamie, que son mari se marie une deuxième fois, troisième fois sans son autorisation, etc. Bon, quelques petits bricoles, on va dire, comme ça. Mais par contre, il a maintenu la réserve que le Maroc n'a pas levée de sitôt sur le protocole au niveau des Nations Unies donc contre les discriminations faites aux femmes. Le Maroc a maintenu quand même une réserve. Il a levé cette réserve que récemment. Récemment et encore. Il a levé la réserve en disant que on enlève la réserve que sur les choses qui ne sont pas en contradiction avec la Chaïra, enfin avec les lois marocaines, etc. Donc, sous-entendu, voilà, on laisse les choses telles qu'elles sont. Donc, bon. Alors, deuxième point, c'est pour moi, ce n'était pas une question, c'était plutôt un constat que je partage complètement. L'espace de liberté, je l'avais dit moi aussi dans mon exposé, ce sont des espaces de liberté arrachés. Arrachés par la lutte et on n'octroie jamais un droit. Un droit, ça s'arrache. Donc, Là, il n'y a pas de problème. Laminer les esprits libres, enfin les prisonniers politiques qu'on appelle aux responsabilités, etc., je suis d'accord avec toi, avec vous, pardon, c'est pour broyer un peu la machine et acheter les esprits. Acheter les esprits, pour essayer de vendre en fait un projet qui est fallacieux. Troisième question, quelle est ma position dans le mouvement? Alors, moi, j'ai commencé par ça au début en disant que nous, ici en France, à partir de mon association qui est l'Association de défense des droits de l'homme au Maroc, on a appelé à créer un comité de soutien, je précise bien parce que les termes ont leur importance, un comité de soutien au mouvement 20 février. C'est pas nous le mouvement 20 février. Je me réclame pas et je ne revendique pas la paternité du mouvement 20 février. Je porte le soutien, je parle au nom du comité de soutien qui m'a mandaté de Paris, mais en tant que soutien au mouvement 20 février qui, lui, se déroule là-bas. On ne parle pas d'ici au nom de quiconque. Ça, c'est le principe de base. On ne peut pas commanditer ou d'ici un mouvement là-bas. La révolution, s'il y a révolution, c'est les Marocains qui vont la faire. Là-bas, pas ici. Je ne fais que soutenir un mouvement parce que je le trouve juste. Et on en parlait tout à l'heure de la solidarité internationale. On est solidaire d'un mouvement qui se développe au Maroc. Pourquoi solidaire? C'est parce que je trouve qu'il est basé sur des questions justes. Un mouvement qui réclame dignité, justice, démocratie, état de droit. Eh bien moi, je suis solidaire avec ce mouvement. Comment il est structuré là-bas? Parce que la question qui a été posée. Alors, c'est un mouvement, c'est vrai, qui est immense, qui embrase en fait tout le Maroc, tout le territoire marocain. Au départ, c'était des coordinations du mouvement 20 février, où tout citoyen marocain et citoyenne marocaine a le droit d'y aller et d'assister en tant que citoyen marocain pour le mouvement 20 février, sur la base des revendications que j'ai citées tout à l'heure. Donc ce sont des coordinations de citoyens pour le mouvement 20 février. Et c'est eux, c'est ces coordinations, parce que chaque ville, pratiquement, ou chaque village, a sa coordination 20 février, où on va trouver les citoyens marocains, les jeunes, des partis politiques d'ailleurs ou pas, mais quand on est dans les coordinations, on est à titre personnel. Il n'y a pas de parti politique dans les coordinations 20 février. Et c'est eux qui décident des actions à mener. Donc ce sont des coordinations de citoyens. Chaque ville, chaque village a sa coordination. Depuis le 20 février, ça a été comme ça. Ils s'organisent par Internet. Enfin, je ne sais pas, moi je ne suis pas au fait tous les jours là-bas pour vous dire comment exactement ils... Maintenant, en parallèle, donc à côté de ces coordinations de citoyens 20 février, il y a ce qu'on appelle les comités de soutien et d'appui au mouvement 20 février. Ces comités de soutien ou les conseils locaux, ce qu'on appelle aussi les conseils locaux, là, on va retrouver tous les partis politiques qui soutiennent le mouvement, les syndicats, les associations de défense des droits de l'homme et les associations de la société civile en général. Et donc, il y a deux structures. Dans chaque ville, pratiquement, ou chaque village, il y a la coordination 20 février. Et c'est elle qui décide les actions en toute liberté, en toute indépendance. Et le comité ou le conseil local, où on a les associations, les partis politiques et les organisations politiques qui soutiennent le mouvement. Le comité de soutien ne décide rien à la place du 20 février. Le mouvement 20 février décide, par exemple, un rassemblement ou une manifestation. Généralement, ça se passe tous les dimanches. Les autres appellent en soutien à ce mouvement. Et donc, ils se retrouvent ensemble dans les manifestations et les rassemblements pour revendiquer les mêmes choses. Alors, revendiquer les mêmes choses, il y a une nuance. Il y a les revendications de base du mouvement 20 février et dans les comités de soutien, il y a les partis politiques dont j'ai cité tout à l'heure qui ont leurs quelques revendications un peu spécifiques, telles que la monarchie parlementaire, telles que... et ainsi de suite. Même la façon de la Constitution, par exemple. La Constitution, dans le mouvement 20 février, une revendication générale, qui est une Constitution démocratique émanant du peuple, ou qui consacre la volonté du peuple. Ça, c'est ce que affiche le mouvement 20 février. Dans les comités de soutien, il y a des partis politiques qui réclament la Constitution, mais à partir d'une assemblée constituante. C'est-à-dire, renversement de la monarchie, la mise en place d'un autre régime et la mise en place, comme en Tunisie en ce moment, d'une constituante qui va donc écrire cette nouvelle constitution. Donc, est-ce que vous voyez un peu le... Voilà. Mais tout ça, pour moi, tout ça, ça fait partie du mouvement 20 février. Alors, maintenant, quelles sont les propositions du mouvement 20 février? Est-ce qu'on a quelqu'un d'autre à la place? Parce qu'on demande, le mouvement 20 février demande, par exemple, la tête du gouvernement, la démission du gouvernement. Est-ce qu'on a d'autres? Ça, ce n'est pas au mouvement 20 février de répondre à la question. Le mouvement 20 février, tout à l'heure, j'ai dit, ce n'est pas un parti politique. Il n'a pas un programme politique. Il ne présente pas de candidat. D'accord. Alors, en fait, le mouvement 20 février fait exactement. C'est pourquoi moi, je me trouve là-dedans et je m'inscris totalement là-dedans. Il fait exactement la même démarche ou la même approche que un défenseur des droits de l'homme. Moi, je suis défenseur des droits de l'homme, je me considère comme un garde-fou et j'interpelle les autorités en place pour leur dire, attention, là, il y a danger, attention, là, il y a une exaction, attention, là, il y a arrestation, etc., etc., etc. Et je veux que ça change, etc. Quel que soit le régime en place, une association de défense des droits de l'homme doit exister quel que soit le régime en place. Parce que quelqu'un qui est au pouvoir est amené à abuser de son pouvoir. Et donc il faut des instruments, des associations de défense des droits de l'homme, comme garde-fous, pour dire, attention, là vous dépassez les bornes, pour interpeller. Le mouvement 20 février fait exactement la même chose. Il dit, voilà, j'ai une liste de choses que je réclame. La libération des prisonniers politiques. J'ai pas besoin de créer un parti politique pour réclamer ça. Le mouvement 20 février non plus. Il le demande. Si le roi, maintenant, ce soir, il fait un discours, il dit, voilà, sur les 7 revendications que vous avez, que vous revendiquez, je fais ça, ça, ça. Je libère tous les prisonniers politiques. Je démissionne le gouvernement, je dissous le Parlement, etc. Pensez-vous que le mouvement 20 février va continuer à manifester de la même façon?
Oui. Vas-y, c'est intéressant de changer.
En fait, quand moi je parlais de changer le Parlement, le gouvernement, c'est plutôt vis-à-vis de l'avis du peuple, en fait. Les gens qui sont là, qui veulent soutenir le 20 février, quand on leur dit il faut que le gouvernement démissionne, ils se demandent qu'est-ce qu'il y aura après ce gouvernement. Si on va faire tout un mouvement pour que ce gouvernement parte et que les mêmes personnes reviennent, ceux des 2000, je sais pas, les années 80, les années 90 reviennent au pouvoir, c'est pas la peine. Donc, on veut savoir où va arriver la situation finale. Mais concernant justement les revendications de 20 février, il y avait le discours du 9 mars. Le tableau n'est pas aussi noir. Il y avait des acquis après le 20 février, il y a, aujourd'hui, on a un projet de nouvelle constitution, même si je ne suis pas d'accord sur la commission qui s'en occupe, mais il y a un projet. Il y a, par exemple, vous n'avez pas parlé de la régionalisation élargie, vous n'avez pas parlé d'un projet de séparation de pouvoir. C'est des projets et il y a une constitution qui va être rendue et il y aura un référendum. Et moi, ce que je regrette aussi, c'est que le 20 février, en fait, c'est bien de continuer à manifester pour mettre de la pression sur le gouvernement, sur le roi, pour bien continuer dans le bon chemin qu'on a commencé. Mais il y a quand même un référendum, et vous avez aussi parlé de la démission du gouvernement, et vous n'avez pas signalé, on sait tous que le octobre 2011, le gouvernement effectivement changera et le Parlement sera aussi, changera aussi avec ces deux chambres. Donc c'est pas officiel, c'est pas encore officiel, mais c'est presque sûr que après le référendum, si la Constitution passe, le gouvernement changera effectivement. Donc ça répond en grande partie ou en partie à vos revendications. Et je passe sur d'autres points qui ont été acquis. Et est-ce que ça c'était pas mieux que le 20 février marque en fait, c'est pas une pause, mais une attente de cette nouvelle constitution, de résultat de ce discours du roi le 9 mars, et ça donnera plus de légitimité ou d'attendre en fait que la nouvelle constitution soit là, que le travail soit fait. Et si ça correspond aux attentes, et ça répond pas tout à fait aux attentes du 20 février, dans ce cas-là, tout le peuple comprendra le fait de redescendre dans les rues pour revendiquer la partie qui reste, qui n'était pas acquise. Donc, moi, j'ai toujours cette vision du peuple qui voit 20 février et comment on va le convaincre à ce qu'elle adopte ses revendications. C'est de ce point de vue que j'ai posé ces questions, ce point de vue que je me demande si le gouvernement n'est plus là, si le Parlement, si c'est juste pour reconstruire un nouveau Parlement, un nouveau gouvernement avec les mêmes personnes, est-ce que... moi, en tant qu'un citoyen normal, je me pose cette question, je veux bien voir où on va arriver, la situation finale, est-ce que je suis d'accord ou pas.
Peut-être, oui, donc on va peut-être continuer. Oui, mais il y avait la dame d'abord, Lutfi, voilà, on va reprendre une série de questions, puis on continuera le... Oui, allez-y.
J'ai entendu un certain nombre de choses qui répondaient déjà à certaines des questions que je pouvais poser, mais ce que je ne comprends pas très bien de chez nous, ici, c'est pourquoi, comment ce mouvement spontané, c'est massif, qui se développe comme ça en dehors de tout. Et est-ce que ça veut dire que finalement les Marocains n'ont pas confiance dans leur parti politique? Est-ce que ça veut dire
oui. Oui, c'est une question.
Est-ce que ça veut dire que justement un certain nombre d'anciens militants, etc., ont été récupérés de tous les côtés et qu'il n'y a plus de moyens d'expression qui exprime les besoins et les aspirations des Marocains.
D'accord, je crois qu'ensuite, donc Lutfi.
Oui,
oui.
Il n'est pas encore parlé.
Oui. Ben, Lutfi, il n'a pas parlé.
Moi, c'est d'abord quand même pour rassurer. Oui. Alors, c'est vrai qu'il y a eu quelques militants de gauche radicale des années 70 qui ont été récupérés, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Heureusement. Voilà. Et oui. Là, beaucoup qui restent. Quand même,
c'est bien de le rappeler.
C'est vrai.
Bien sûr.
Ça c'est une chose, mais moi c'est sur le problème, c'est pas juste histoire qu'est-ce qu'on va remplacer par qui, le gouvernement ou le parlement. La question c'est qui décide dans notre pays. Je suis marocain comme toi. Qui décide dans notre pays? C'est la monarchie ou c'est le peuple? Voilà. Et quand je dis la monarchie, c'est pas simplement le roi, c'est ce qu'elle symbolise. C'est-à-dire, ce qu'on oublie, c'est que c'est pas simplement ce qui a été dit, le sacré, un pouvoir absolu la fusion de l'exécutif, législatif, la dictature avec un vernis démocratique, c'est aussi le premier entrepreneur, c'est aussi le premier propriétaire foncier. Et au service d'une mafia qui possède le pays. Et qui se résume à 3-4%. Alors il y en a qui ont tous les moyens, il y en a qui n'ont rien. Et c'est ça le changement. Hein? Ce n'est pas juste histoire, effectivement, d'avoir des élections, de démissionner le gouvernement, etc. Et donc la question derrière, la question de la constitution démocratique, c'est fondamentalement le peuple choisit quel régime social, politique, économique. Pas simplement politique, mais aussi comment il va satisfaire ses besoins. Est-ce que, alors, ça a été dit un petit peu, est-ce qu'on demain, on se retrouvera avec des patrons qui exploitent des travailleurs et qui ne payent pas, qui ne légalisent pas, on n'a pas le droit d'avoir de la sécurité sociale? Est-ce qu'on a le droit de venir polluer, d'exproprier des paysans et puis il n'y a rien qui se passe, c'est l'impunité, etc., etc. On ne veut plus ça. C'est aussi ça. Et moi, je sais que ce n'est pas une histoire parce qu'il y a toute une théorie qu'on entend même dans certains milieux de gauche. Il y aurait le bon personnage du roi, et puis il y a le milieu autour. Alors le milieu, il est pourri, mais le roi, en fait, il est mal conseillé, ou il n'est pas au courant, ou il n'est pas ceci. Il y a l'appareil du Marzen, le vieil appareil qui est hantéliste, réactionnaire, et puis il y a quand même la monarchie qui est moderne et qui est coincée de tous les côtés. C'est pas vrai. La monarchie, c'est le cœur de ce système quasiment féodal. On supprime ce système féodal, on supprime la monarchie, et là, avec l'autre. Alors, la difficulté qu'il y a, et là où je vois effectivement dans la discussion par rapport au mouvement du 20 février, ce qui unit, c'est les revendications qui ont été dites, et c'est un mouvement qui ne pose pas la question du pouvoir. Et c'est pour ça que moi, je suis moins optimiste, malheureusement. Parce qu'il ne pose pas la question du pouvoir. Alors, on peut dire que c'est les partis. Mais malheureusement, même les partis ne le posent pas. Ou alors, d'une manière extérieure, d'une manière timide. Moi, je pense qu'il y a deux faiblesses aujourd'hui pour qu'il y ait un vrai changement réel dans la situation. C'est vrai ce que tu as dit tout à l'heure, qu'il y a plein de mouvements. Tu parles des sociologistes, des mouvements de chômeurs. On peut rajouter sur cette dernière période des luttes syndicales très fortes, la santé, l'éducation, les SNCF, etc. Il y en a plein de luttes comme ça, animées par l'esprit du fin février, parce que combatifs, etc., qui ne font pas partie du mouvement. Il y a un problème de rupture entre le mouvement syndical et le mouvement du 20 février. Et ça, c'est un problème. C'est un vrai problème qui n'est pas du fait du mouvement du 20 février, qui n'est pas du fait même des syndicats, qui est du fait des directions qui ont été achetées, mais depuis très longtemps, voilà, hein, on les a convoquées déjà tout au début pour leur expliquer, il n'est pas question qu'il y ait plein de désordres, mais juste avant le 1er mai, ils signent un accord où il y a des concessions très dérisoires, et voilà, on assure la paix sociale. Ça, c'est la première faiblesse, en tout cas, de la mobilisation populaire. La deuxième, alors on peut dire, c'est vrai que c'est un mouvement important, mais ce n'est pas la déferlante. C'est-à-dire qu'il y a encore des couches de la population qui restent à gagner et qui sont l'option aujourd'hui d'une vraie lutte entre le pouvoir qui cherche par plein de moyens de propagande, de clientélisme à s'assurer qu'elle ne bouge pas et le mouvement du février. Bon, est-ce qu'il va réussir à gagner? Sur quel objectif? Et le problème, c'est que si on se bat uniquement sur l'idée de la constitution démocratique et si on ne parle pas de salaire, d'accès aux droits, de conditions de vie, des gens qui vivent dans les bidonvilles, il y a ça dans les slogans, il y a ça dans les communiqués, mais il n'y a pas de lien réel dans les mouvements. Et là, c'est une grosse faiblesse, à mon avis, une grosse interrogation. Et dernier point sur lequel, moi, je voudrais intervenir, on ne sait pas du tout comment ça va se développer. Par contre, moi, en tout cas, ça, c'est mon analyse personnelle, c'est que je pense, jusqu'ici, il a joué la façade démocratique, c'est-à-dire la manière dont il a traité ces mobilisations-là, c'est pas la Syrie, c'est pas la Libye, c'est pas l'Égypte, c'est pas la Tunisie. Mais il a réprimé, quand même. Hein. C'est pas juste histoire. Hein. Il a réprimé. Et là, on est arrivé à une situation où l'enjeu, pour lui, c'est d'avoir un référendum sur un projet qui ne peut pas être contesté publiquement dans la rue. Et donc, il intéresse que ça cesse vite. Ce qui fait, sur ces 15 derniers jours, on a eu une vraie montée de la répression. Il a été obligé de reculer parce qu'il y a un mort, parce qu'il y a un peu de pression internationale, c'est un recul tactique. Mais là, on va vers une situation, je ne sais pas sous quelle forme, en tout cas à mon avis, d'affrontement. C'est-à-dire qu'il ne peut pas se permettre que pendant des mois, eh bien, il y a des dizaines de milliers de gens qui manifestent tous les dimanches, etc. D'ailleurs, ce rythme-là ne suffit pas à changer la situation, il a très bien compris. Ça ne suffit pas à menacer le pouvoir, ça il a très bien compris. Il ne peut pas non plus indéfiniment accepter qu'il y a un mouvement comme ça qui s'exprime en portant un certain nombre de revendications, etc. Et moi, je pense qu'on peut rentrer dans les semaines à venir dans une situation extrêmement compliquée où il y aura un affrontement, il y aura des répressions très fortes. Et que du coup, si on doit réfléchir en termes de solidarité internationale, c'est aussi par rapport à ça. Alors, c'est pas juste un truc qui va être pacifique tout le temps.
Voilà. Vous aviez pas demandé la parole ?
Je suis désolé.
Ah, bah, c'est dommage, parce que bah, vous posez votre question avant de partir. Bah si, parce que c'est dommage. Je m'excuse, mais j'avais bien noté que...
Merci de me donner la parole. Je vais passer bref. Moi, j'ai un point de vue un peu différent. Je suis non-partisan, je suis juriste. J'ai un autre regard et j'ai envie, peut-être un petit peu par rapport à ce qui a été dit. Moi, je pense que ce qui se passe aujourd'hui au Maroc, historiquement, c'est extrêmement important dans une phase d'accès à la citoyenneté ou d'exercice de la citoyenneté. Bon, ce qui se passe au Maroc aujourd'hui, ce qui a été évoqué tout à l'heure, à savoir ces comités de coordination, ce qui se passe à travers toutes les couches, transversalement, c'est extraordinaire. Donc, c'est un moment historique qu'on vit. Je pense que, parce que, y compris la question de la je dirais, c'est, il y a un mouvement de conscientisation politique, ou d'accès à une conscience politique. C'est ce qui se joue aujourd'hui. Alors la question maintenant, c'est, effectivement, c'est vers où, vers quoi ? Et où on va ? Alors, il y a ce que j'en constate, ce que j'en vois, moi, c'est une complexité extraordinaire. Le Maroc, c'est complexe, le Maroc. Une diversité extraordinaire. Alors, on a d'un côté... je reviens un petit peu, alors, plus d'un point de vue de juriste, sur la question des commissions. Je suis obligé de constater, par exemple, que les constitutions marocaines depuis 62, qui dit... Ça a été des constitutions faites comment ? C'est la question de qui fait qui propose la constitution ? C'est la question du constituant. C'est qui le constituant ? Et historiquement, au Maroc, le constituant, ça a été souvent une revendication d'ailleurs des partis politiques de gauche, que de pouvoir participer à la constitutionnalisation. Parce que la constitution, un enjeu de tous les jours. On croit que la constitution, c'est un papier. On peut penser que c'est un petit peu une sorte de papier. Mais concrètement, c'est toute la question des droits au quotidien qui s'y joue. Parce que toutes les lois, tous les textes, tous les arrêtés, etc., etc., tout doit correspondre, doit être conforme à la Constitution, à condition qu'on mette en place un vrai conseil constitutionnel qui va aider des juges qui sont juges. Très important en Maroc, la question de la justice. Mais ce que je veux dire, c'est que, sans rentrer beaucoup dans le détail, historiquement, c'était le roi qui... se concerter avec les juristes français, en l'occurrence, par exemple, Georges de Vedel. Feu Vedel, qui était un des plus grands constitutionnalistes français, il fabriquait la Constitution comme ça, en plus on l'a proposé à référendum. C'était sa chose. Jusqu'en 96 à peu près. Aujourd'hui, on doit constater que ce n'est plus la même méthode. Parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Mohamed VI, de toute façon, il est obligé face à un mouvement... très important, un mouvement trans-arabe, tout ce qu'on veut, il nomme, en fait, c'est vrai que c'est lui qui nomme. Il nomme une commission dans laquelle, quand même, essentiellement, il y a qui ? Vous avez des politologues, vous avez des experts, c'est vrai, c'est une commission d'experts, et quelques représentants d'ONG. Vous avez cité Yazami et d'autres, une femme d'ailleurs aussi. Et donc, il a tracé, certes, les grandes lignes. Mais dans ces grandes lignes, ce qui a été dit aussi, c'est que toute autre proposition différente peut être faite en dehors de ce qui a été dit. Ce qui a été évoqué, c'était l'état de la question de la justice, la question Amazigh, bien entendu, la régionalisation, ça a été cité, la question des droits et des libertés fondamentales, la question de la place des traités internationaux dans l'ordre marocain. C'est extrêmement important, ça, parce que ça veut dire que si on fait rentrer, si on constitutionnalise les traités, si on les met dans la Constitution, ça veut dire que ça peut être une bombe, si je puis dire. Mais aujourd'hui, on est obligé de constater quand même qu'il y a ça. Il y a une possibilité. Avec la Commission a auditionné plus de 30 partis, et en dehors des partis. La question qui se peut. J'ai des informations un petit peu de Maroc récentes. Je pose la question, est-ce que le mouvement du 20 février, est-ce qu'il a proposé justement ces éléments ? Parce que la question, est-ce qu'il a proposé, est-ce qu'il a fait ces propositions ? La question de l'Assemblée, la question du constituant, moi, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut ouvrir dissoudre le Parlement, ouvrir les élections et élire des députés. Ça c'est très lié à la question de la Constitution. Élire des députés, élire des représentants, des élus, choisir des élus, au nom de tout le peuple, qui vont, eux, proposer une Constitution. Moi, je pose la question dans une hypothèse comme celle-ci. Aujourd'hui, avec ce qu'on sait, c'est une question, avec ce qu'on sait de la force du mouvement, vous avez parlé de la Hersan, par exemple, de la justice et bienfaisance, et d'autres partis islamistes. Si on est dans une, comme on le sait, on est dans une proposition, par exemple, de mettre dans la Constitution, parmi les idées qui ont été évoquées, d'ailleurs, mettre dans la Constitution la source de toute loi, c'est la charia. Supposons. C'est une hypothèse, mais ce n'est pas seulement une hypothèse, ça a été évoqué par un ensemble de partis. Donc ça veut dire que si on est dans une optique d'assemblée constituante, ça veut dire qu'il faut, ça veut dire qu'il faut révolutionner, évidemment. Ça veut dire qu'il faut abroger la Constitution actuelle. La Constitution actuelle, elle prévoit son mode de révision. Une assemblée constituante, ça veut dire qu'il faut, on passe plus par le mode de révision de la Constitution qui existe aujourd'hui. Mais ça veut dire qu'on abroge cette Constitution et effectivement, on passe à autre chose, complètement nouveau, complètement différent, révolutionnaire, certes, mais qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que ça pourrait donner? Et c'est ça, les interrogations. Maintenant, je dis un petit peu en vrai tout ça.
Peut-être conclure pour qu'on puisse...
Moi, je pense que des mouvements comme ceux-là, on est aujourd'hui en train de vivre un mouvement extraordinaire en termes de citoyenneté, en termes de ce que je disais tout à l'heure, et ça, je rends hommage à votre action, mais en même temps, il y a toutes ces dynamiques, ces complexités qui sont au Maroc, qui peuvent aujourd'hui virer vers quelque chose qui peut aussi être très dangereux. Je vous arrête là, je vous remercie.
D'accord. Donc, je vous propose que peut-être on te laisse réagir et puis ensuite on prendra un dernier tour de questions et puis pour ne pas clore trop tard. Voilà.
Alors je commence par la dernière intervention qui n'est pas en fait une question mais c'est une approche. C'est une approche qui se respecte, qui se respecte. C'est vrai que, alors je partage l'idée de dire que le mouvement qui se construit au Maroc c'est un mouvement qui est vaste. Et qui n'a commencé que le 20 février, je le rappelle, je l'ai dit tout à l'heure, il n'a que 4 mois. Même pas. Est-ce qu'on a même le droit de parler de mouvement? Je l'ai dit dans mon intervention. C'est peut-être attendant un peu pour qu'on puisse l'étiqueter de mouvement. Mais bon. Mais c'est un mouvement qui se construit quand même. Et qui embrase toutes les couches populaires. Tu l'as dit tout à l'heure que c'est pas encore ça, t'es pas optimiste parce que... Moi, tout le contraire de toi, je reste quand même optimiste parce que... C'est un mouvement qui se construit dans la difficulté et qui est en train de balayer pas mal de... pas mal de revers. Il aurait pu tomber dans le piège juste après le discours du 9 mars. Ce qui n'était pas le cas. Parce que qu'est-ce qu'on a remarqué? Après la réponse du 9 mars, il y a eu la répression du 13 mars. C'est là où ça a commencé. Les autorités marocaines ont répondu par la violence à un rassemblement qui voulait dire non à la réponse donnée par l'État marocain. À Casablanca, ça a commencé. Ils ont poursuivi les manifestants jusque dans les locaux d'un parti politique, pour ne pas le nommer, le PSU. C'est une réponse forte du régime. La répression, c'est dans ses habitudes de toute façon. Mais là, il l'a montré. Il l'a montré. Cette répression va avoir va augmenter, on va dire, en degré le 15 mai à Tmara. Alors pourquoi Tmara? Parce que Tmara, le mouvement 20 février, va toucher au cœur de la question politique au Maroc. Tmara, c'est un centre qui est officiellement centre administratif de la DST, direction de la surveillance du territoire. Mais en fait, c'est un centre qui abrite dans ses locaux des centres de torture. C'est par là où sont passés quelques condamnés et quelques prisonniers de Guantanamo. C'est par là qu'on fait passer tous ceux qui tombent sous le coup de la loi antiterroriste depuis 2003. Donc tout ce qui est soupçonné, présumé, islamiste, barbu, Tmara, torture, et après on verra. Le mouvement 20 février est très conscient de cette question. Il a voulu juste organiser un pique-nique devant ce centre pour dire arrêtez, fermez ce centre de torture clandestin. La répression s'est abattue sur les manifestants. C'était le 15. Il y a eu le 22, un dimanche, où là, on a tabassé comme on peut. Le 29, c'est encore pire, avec un mort qui s'appelle Kamel Amari, Assafi. Donc, le danger, oui, ça existe, il a dit, il est parti. Il y a tous les dangers. Mais c'est un mouvement. C'est un mouvement de société. C'est normal qu'il y ait des prises de risques. Parce qu'une société qui ne bouge pas, une société qui ne se mobilise pas, une société qui ne réclame pas ses droits, elle n'est pas citoyenne. On peut faire avec tout ce qu'on veut. Mais moi, je ne veux pas de cette société. Je veux prendre des risques, justement, et débattre avec mes concitoyens de la façon de se sortir de cette situation. On ne peut pas tolérer une situation où il y a un centre de Tmara et on a d'autres. Attention, avant il y avait Tezmamas. Vous avez lu peut-être le livre Notre ami le roi, de Gilles Perrault. C'est ancien, mais depuis, il y a eu d'autres. Il y a eu d'autres. Et donc il n'y a pas que Tezmamas, qu'on niait complètement au départ. Et que le mouvement de la société marocaine a fait sortir donc au monde. C'est grâce justement à la mobilisation, à ce prise de risque, que les militants marocains ont pu arracher des espaces de liberté. C'est parce que justement la société ne croise pas les bras devant l'injustice. Qui peut rester les bras croisés devant une injustice? Personne.
Oui.
Théoriquement.
Je crois que la société marocaine, la société civile, a franchi des pas qui sont considérables dans la lutte pour un autre État, un État de droit. Parce qu'on considère que l'État qu'on a maintenant n'est pas un État de droit. Où il y a un déficit démocratique flagrant. Le mouvement, pourquoi il touche tout le monde, enfin tout le monde, les couches populaires, et qu'il s'étend dans toutes les villes, les villages, les petits patelins reculés, C'est pas parce que justement, il y a une conscientisation, pardon, ça a été dit, et que le peuple marocain prend conscience de son devenir. Il veut être le maître de son avenir. Il ne fait plus confiance à ceux qui le gouvernent, parce que ça fait des années, ça fait 50 ans. Ça fait 50 ans qu'on a fait confiance à ces gens-là. Ça fait 50 ans qu'ils nous emmènent en bateau avec des constitutions octroyées et non pas décidées par le peuple, où le peuple n'a pas été consulté. C'est vrai qu'on fait des référendums, mais dont les résultats sont connus d'avance, à 99, on va dire à 98, allez, 98% de oui, et où les partis politiques qui jouent le jeu, les partis politiques de gauche parlementaires qui sont représentés dans le gouvernement, etc., négocient le oui, en fait, au référendum. Et donc ce peuple-là ne veut plus repasser donc le même scénario. Dans la dernière constitution, celle de 96, le roi Hassan II, avant sa mort, avait inscrit, parce que c'est lui qui avait écrit cette constitution, la dernière, c'était lui. Il l'avait soumise à référendum. Dans le préambule de la constitution, justement sous la pression du mouvement des droits de l'homme et la pression internationale, parce qu'on parlait de livre de Jules Perrault, etc., 96, c'était pas loin, dans le préambule, il dit que le Maroc adopte les droits de l'homme ou les textes internationaux tels qu'ils sont reconnus universellement. Le Maroc est champion de ratification. Tous les textes, les conventions internationales, le Maroc les a ratifiés, les a signés. Le problème qui se pose, c'est où ? Ben, c'est dans la pratique. C'est dans la pratique. Il a signé dernièrement le pacte contre la torture. Mais j'ai cité Tsmala, j'ai cité Tsmamal, j'ai cité pas mal de... Et ça continue. Donc, il ne suffit pas d'inscrire dans le préambule de la Constitution un principe, encore faut-il l'appliquer. Et c'est ça que le peuple marocain veut dire par ce mouvement. Il ne fait plus confiance à ces gens qui ont décidé à sa place depuis X temps. Il ne fait plus confiance même dans les partis politiques qui ont joué le jeu. Il a appelé Youssoufi à la primature en 98. C'était un ancien opposant. Parti de gauche, l'USFP, qui fait partie maintenant du gouvernement, du Parlement. Résultat. Aucun changement sensible au niveau de la vie sociale des Marocains. Et donc, dans ce mouvement, ce n'est pas étonnant que dans le mouvement, les jeunes ou ceux qui portent ce mouvement rejettent un peu les partis politiques, même ceux de gauche qui soutiennent le mouvement. Ils revendiquent leur indépendance et leur autonomie. C'est pourquoi, tout à l'heure, j'ai dit que c'est un mouvement qui décide en autonomie et en indépendance en dehors des partis politiques. Les partis politiques font leur boulot, soit de soutien, soit... en tout cas, ils ont leur démarche à part. Voilà.
Je propose peut-être qu'on va reprendre quelques questions, mais les dernières. Hein. Donc, il y a Marie-Jo, Nasser. Donc, essayez de faire court. Marie-Jo.
Moi, simplement, je voulais dire par rapport aux manifestations, je ne sais pas, des quelques centaines. J'étais à la manifestation du 24 avril à Rabat. C'est une chose absolument extraordinaire et ça porte un espoir qu'on ne peut pas imaginer si on n'y est pas. C'est fou. C'est absolument fou. On passait à côté des bidonvilles, les gens des bidonvilles, ils applaudissaient, ils scandaient les slogans. Il y avait du monde jusque sur les terrasses, à tous les balcons, à toutes les fenêtres. C'était long. Est-ce qu'il y en avait 50 000? Est-ce qu'il y en avait 100 000? C'est difficile de dire. Et le 5 encore, là, récemment, j'ai lu aussi que à Casa, il y avait 60 000 personnes encore. Le mouvement ne s'essouffle pas, et pour moi, c'est un espoir immense. Enfin bon, moi, je ne suis pas marocaine, je vois ça de l'extérieur, mais je trouve ça absolument historique, formidable, plein d'espoir.
Voilà. Merci pour ce témoignage. Donc, Nasser, je vais essayer de donner la parole à tout le monde. Essayez de faire court, hein, vu l'heure, parce que sinon on n'aura pas le temps de terminer. Je m'excuse, mais si tout le monde doit parler.
Je ne reviens pas directement sur le Maroc, parce que je ne connais pas grand-chose. Tout simplement, je voulais faire une petite remarque sur la vision très limitée, très déformée qui existe en Occident sur la religion dans le monde arabe, au Moyen-Orient ou au Maghreb. Première vision réductrice, sur l'étendue géographique de cette révolution. On se limite le printemps arabe. Vous avez fait allusion, je suis entièrement d'accord avec vous. La révolution qui traverse actuellement cette région du monde dépasse largement le monde arabe. A savoir, l'Iran était complètement intégré dans cette révolution. En tant qu'Iranien, je peux témoigner ça. Deuxième élément de cette vision réductrice, sur les revendications. Souvent, quand on discute ici en Occident, en France, que je connais plus ou moins, quand on parle de révolution dans le monde arabe, printemps arabe, on parle simplement de revendications de droits d'ordre civique. Donc, on oublie le volet social. Je viens de faire allusion aux plusieurs mouvements sociaux revendicatifs. Je peux témoigner en ce qui concerne l'Iran. Des dizaines, des centaines d'ouvriers iraniens qui sont en prison actuellement sur la torture pour les revendications sociales, qui sont partie intégrante de la révolution du monde arabe et en Iran, et partout dans le monde. Troisième chose, et ça m'a agacé beaucoup, de profiter de quelques ralliements ou quelques renonciations de certains soi-disant marxistes pour mettre en général des marxistes iraniens et arabes dans le même bateau et de parler d'intégration de marxisme ou désintégration de marxisme. Je voulais vous dire quand même que les revendications sociales dans ce genre de pays comme l'Iran étaient portées avant tout par le marxisme. Donc je rends hommage au courage de tous les marxistes iraniens qui ont payé un tribut extrêmement cher au régime du Shah et au régime de la République islamique. Plus de 50 000 marxistes iraniens ont été exécutés par le régime de Mollah si une dizaine était ralliée à ce régime et même participé aux crimes commis par ce régime. Donc il faut prendre quand même d'un revers de main de mettre en cause le sacrifice d'une génération de révolutionnaires, de gens qui ont lutté pour la liberté et pour les droits sociaux. Une autre vision très réductrice, c'est le rôle d'Internet. Le mouvement social, le mouvement révolutionnaire n'a pas commencé avec Internet. Chaque mouvement révolutionnaire utilise des moyens de bord, des moyens de communication qu'il dispose. Le mouvement révolutionnaire en Iran, ça commence en 1906. On est très loin de l'époque de l'Internet. Ça continue en 1953 avec le mouvement social et le mouvement revendicatif autour de Mossadegh. Ça continue avec la révolution iranienne pour renverser le régime du Shah. Au cours de cette période, il n'y avait aucun moyen technologique moderne pour parler de génération Internet. Nous ne sommes pas, ou les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas des générations Internet. Ils sont des générations précaires, maltraitées, réprimées par le despote dans ce région du monde.
Est-ce que tu peux conclure, Nasser, parce qu'on n'aura pas le temps. Non, c'est important, mais vas-y.
Voilà. Oui. Je voulais répliquer à Maurice, parce qu'ici, il y a une vision critique sur l'offre politique dans ce genre de pays. Est-ce que nous sommes condamnés de choisir entre despotes comme Moubarak ou les islamistes? Absolument pas. La révolution iranienne, ça continue contre les islamistes. Et dans le monde arabe, il a montré sa maturité. L'islamisme, c'est fini. L'islamisme, c'était créé, épaulé par les occidentaux, par les impérialistes et par son allié en Israël. nos mouvements sociaux non seulement ne se limitent pas au pays arabe, ça dépasse l'Iran, ça traverse l'Iran, mais maintenant ça commence à traverser l'Israël aussi même. Il y a des revendications du peuple israélien pour décolonisation, pour terminer la politique de colonisation.
Merci, allez-y.
Bonjour, je suis arrivé un peu en retard.
Oui.
Donc j'ai entendu pas mal de choses, j'ai appris des choses. Et ce que je voulais savoir aussi, bon, j'ai entendu qu'effectivement, il y avait, on essayait de racheter à travers le peuple marocain, surtout les gens qui sont proches du royaume. Moi, ce qui m'a frappé beaucoup depuis le 20 février, c'est à travers les médias français. On a beaucoup entendu le mouvement du 20 février. Et après le 20 février, vous l'avez dit vous-même, il y a eu pas mal de choses. Et en France, à travers les médias, on a entendu très peu de choses. Et il y a eu pas mal de répressions assez violentes, effectivement. Et pourquoi en France, vous qui portez ce mouvement, comment vous apprenez ça? Pourquoi en France, aujourd'hui, on n'a pas ces échos-là, de cette répression qui existe? Et comment se fait-il qu'en France, on n'ose pas porter cette voix-là très clairement? Est-ce que c'est historiquement par des habitudes qu'on connaît bien? Ou alors, est-ce qu'il y a une méfiance aussi par rapport à ce mouvement? Est-ce qu'il peut attenter réellement au peuple marocain?
Je vous propose peut-être une dernière question. Oui, trois questions. Voilà. Mais court. Allez-y. Oui, c'est bien.
C'est très
et vous
bref que vous avez dit.
Oui, vas-y, bien sûr.
Oui, parce que vous avez dit justement qu'il s'est passé des choses dans tous les pays, dans toutes les couches populaires. J'aimerais savoir au niveau agricole, justement. Je sais qu'il y a des grandes propriétés de fruits et légumes au Maroc. Comment réagit la population? Est-ce que le mouvement est présent dans ces campagnes-là, dans ces grands domaines agricoles? Voilà.
Allez-y.
Voilà, je ne peux pas dire beaucoup de choses. Hein. Moi, je profite de cette occasion pour rejoindre notre ami iranien pour rendre hommage aux martyrs révolutionnaires marxistes-léninistes marocains qui ont tombé mort dans les gilets des régimes marocains en défendant la libération du Maroc. Donc il ne faut pas vraiment parler, mettre tout dans un seul sac et dire voilà, tous les révolutionnaires sont tombés, etc. Parce que même les gens qui ont acheté, intégré dans le système d'appareil d'État des Marocains, ils ont été même avant vendus, comme on dit, renverser la veste. Donc c'était déjà clair parce que les régimes, ils savent très bien avec qui va négocier, avec qui va parler. La deuxième chose, c'est que lorsqu'on parle d'un mouvement, comme un mouvement de février, il ne faut pas parler comme les revendications, comme des choses qui sont figées. Vous listez, voilà, il y a A, le 1, le 2, le 3, le 4. C'est un mouvement qui bouge. C'est un mouvement qui est, même on peut dire, avec la répression qui est actuellement au Maroc, il est en train de se radicaliser. On voit très bien, ça varie même les revendications, les slogans, ça change d'un ville à l'autre. D'une ville à l'autre, donc... On a vu l'expérience en Tunisie, en Égypte. Ils ont commencé avec contre la corruption, ils ont arrivé à battre le régime. Donc, il ne faut pas vraiment lister, voilà, les revendications de mouvement, c'est ça, il ne faut pas dépasser ça. Non, ce n'est pas vrai, parce qu'il y a beaucoup de comités, mais même pas, hein, je parle de mouvements de février dans des villes, au Maroc, qui revendiquent aussi changer le régime. Donc c'est pas clair, c'est pas dire voilà exactement ça. Il y a beaucoup de courants, c'est vrai, il y a beaucoup de courants politiques qui sont au sein du mouvement de février. Il y a beaucoup de divergences, il y a même des partis qui sont pro-régime, qui sont maintenant au sein du mouvement de février. Il y a les islamistes PGD qui se réclament que le roi, il faut qu'il ait le pouvoir, il faut qu'il règne, et voilà. Et en même temps, il soutient le mouvement février. Mais aussi, il y a des partis politiques qui sont soi-disant contre le régime. Mais aussi, ce qui est pour moi une chose qui est très importante, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont invités soit dans l'université au sein de syndicats lui-même, qui sont des progressistes, soit au sein de l'association de chômeurs, qui sont politisés. Parce que même si on dit voilà que le mouvement il est partout au Maroc, donc il a touché tous les couches sociales, c'est pas automatiquement je veux dire que le mouvement il n'est pas politisé. Il y a des gens qui faisant de la politique. C'est pas la politique, c'est pas dans le sens qu'ils sont dans des partis politiques X ou Y. C'est des gens qui savent très bien ce qu'ils veulent. Donc voilà. Moi, mon opinion politique, c'est qu'on ne peut pas faire quelque chose au Maroc sans changer le régime. Ce n'est pas une question de constitution. Même les partis qui sont courus pour sauver le régime lorsqu'il a lancé le changement de la constitution, avant-hier, il y a 3 partis qui ont quitté même l'Assemblée pour discuter parce qu'ils... Ils ont arrivé à conclure que ça, c'est déjà préparé. La monarchie s'est déjà préparé tout, donc c'est seulement pour valider. Voilà. Donc, je ne vais pas dire.
Donc, une dernière question.
Voilà. Vous avez demandé aussi est-ce qu'on vous donne des remarques vues d'ici. Ouais. Moi, de ce que je comprends de ce mouvement, c'est que ce n'est pas un mouvement politique, alors pas au sens traditionnel où on l'entend. En fait, moi, je le comprends comme un mouvement civique. Comme en fait les Noirs américains l'ont fait dans les années 50 et 60, ils demandent changement de système, c'est-à-dire système politique, système économique, système social. C'est-à-dire en fait, c'est pour ça effectivement, tous ceux qui à un moment donné ont accepté peut-être de bonne foi de se chercher, travailler avec les institutions en place pour modifier, améliorer, ils sont pris par la spirale, dans la spirale du discrédit qui emporte tout le système. Donc, en même temps, la question qu'on peut se poser, c'est les populations de ces terres-là sont en train de découvrir ce que les Sud-Américains ont découvert à la fin des années 80, quand il y a eu le dégel, la fin des dictatures militaires, et qu'il a fallu choisir son destin, prendre le risque et puis choisir, et les peuples d'Europe centrale et orientale, qui, passant d'une dictature et d'une occupation militaire, ont fait un grand saut dans l'inconnu. Alors, on peut comprendre, moi, ce que j'entends de la remarque de monsieur. Moi, je l'entends. J'ai été élevé, j'ai grandi, mes parents grandissent dans un système. On sait à peu près comment ça marche. Mais ce que vous proposez, c'est un gigantesque inconnu. Et personne ne peut dire. Moi, ça me fait penser à ce qu'a été la révolution anglaise au XVIIe siècle, au XVIIIe, la révolution américaine et française. À chaque fois, au début, il y a eu des élites qui ont commencé, il y a eu des groupes qui sont bougés. Et puis à la sortie, la société qui en est sortie n'a pas grand-chose à voir, je pense, avec ce que ceux qui ont participé s'est mis en place. Des groupes nouveaux sont apparus. Donc, à mon avis, la difficulté qu'il y a dans tous vos pays, et en particulier au Maroc, c'est comment, en plus, le problème que vous avez, c'est que vous avez des diasporas à l'étranger considérables, en général plutôt formées et éduquées, avec peut-être un niveau de conscience et une connaissance du monde différente ou en décalage par rapport à vos compatriotes qui, eux, n'ont pas pu sortir et n'ont pas forcément la même relation. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'on met derrière le mot démocratie. Qu'est-ce que ça veut dire avoir des institutions démocratiquement, mais les contester tout en les respectant. On peut dire, je dis Sarko n'est pas mon président, mais c'est pas grave, je le battrai en 2012. Comment on peut dire ça? C'est une culture qui s'est construite en 2 siècles. Donc je dirais, la difficulté que vous avez, c'est vous voulez changer le logiciel. Et fondamentalement, personne ne le sait, ne le connaît.
Donc, une dernière...
Pour rebondir sur 2 choses. J'ai écouté l'intervention de M. Aboudaheb, et je regrette qu'il ne soit pas là, Zéhir. Il y a quelque chose qui me choque. Moi, je veux dire, déjà, nous, on est là. On va rester quand même humble devant ces gens qui courent des risques, les témaras, les machins, le bâton. Deuxièmement, j'ai l'impression que l'immigration a oublié l'amnésique, parce qu'on est issu de l'immigration, hein. Peu importe économique, intellectuel, machin, pas de quoi. On est venu, on profite d'un système qui émane de certaines luttes. On est pas mal avec Sarko, machin, patapoufa. Comment peut-on oublier pourquoi on est parti? Comment ose-t-on aujourd'hui venir donner des leçons et puis ceci, puis la constitution, machin? Moi, je ne sais pas, est-ce qu'il fait partie du mouvement LMA ou j'en sais rien, mais comment aujourd'hui oublie-t-on pourquoi on est là? Nous avons vu un système global, économique, politique et tout ce que vous voulez. Par contre, alors, pour continuer sur la diaspora, je veux dire, aujourd'hui, il y a des phénomènes, c'est que le Maroc veut récupérer certains intellectuels. Et il y a des tas d'associations qui se font, qui font des choses d'ailleurs très bien, mais le but, c'est de récupérer les pseudo-intellectuels, je ne sais pas ce qu'on met derrière intellectuel, de les récupérer. C'est pas le fruit du hasard. L'immigration aujourd'hui représente économiquement pour notre pays la première entrée d'argent. Devant le phosphate, devant. Donc ils ont plutôt intérêt à garder des liens. Quant à monsieur, ils ont des connaissances et tout. Moi, personnellement, mis à part quelques hirondelles que je fréquente régulièrement, mis à part les Marocains de cœur, parce que je ne sais pas ce que c'est. Moi, je suis d'abord une internationaliste. Donc, je ne vais pas dire oui, la diaspora à l'étranger, là-dessus. Moi, je fais confiance aux Marocains, ces femmes qui vendent les beignets 5 centimes la journée, ceux qui se prostituent, les ouvrières. Ceux-là, on n'a pas besoin d'être un intellectuel, vous en avez quand même une belle leçon, c'est quand le peuple sort dans la rue et qui revendique. Et le Maroc aujourd'hui revendique les droits les plus élémentaires. On est à milieu des conditions de vie de ces gens là-bas. Donc restons humbles, ne passons pas notre temps à donner des leçons magistraux où on s'y perd, et rappelons-nous pourquoi nous sommes venus.
Merci bien. Donc, je vais donner la parole à Yad qui va... On va terminer là. Voilà, parce qu'il est déjà un peu tard.
Alors, j'aime pas faire les conclusions. Oui. Je vais pas faire une synthèse. Mais rapidement, il y a deux petites choses qui n'ont pas été peut-être détaillées dans l'exposition. C'est les agriculteurs, les terriens, les paysans. Oui. Alors, ça rejoint en fait la question que collègue juste après vous a posé sur l'enracinement en fait de ce mouvement dans les couches populaires. C'est pourquoi moi j'ai beaucoup d'espoir dans ce mouvement, c'est que ce mouvement s'enracine de plus en plus dans les couches populaires. Alors, il va là où il y a la misère, là où les gens, où la population réclame des droits. Par exemple, je donne juste un exemple pour aller vite. À Tanger, les slogans, enfin les revendications portées par le mouvement, je ne parle pas des 7 que j'ai cités tout à l'heure, c'est des revendications locales. Par exemple, il y a une société qui s'appelle MN10 à Tanger, un patron qui fait sa loi, qui fait ce qu'il veut avec ses ouvriers. Et bien le mouvement 20 février a été avec les ouvriers et les ouvrières manifesté devant la société MN10 depuis le début du mouvement 20 février. C'est pas que le dimanche, c'est pratiquement tous les jours. Tous les jours. C'est que c'est un mouvement qui s'enracine avec le peuple, avec la population locale. Parlons des agriculteurs. Il y a eu des marches des paysans dans les petits patelins reculés du Maroc. Ça, on n'entend pas parler ici. Vous n'allez pas entendre parler ça dans la télévision. Et donc, je rebondis sur la question.
Même au Maroc. Même au Maroc.
Oui, ceux qui sont dans le mouvement, les initiés, vont aller au fin fond des choses. Donc, ils sont au parfum. Et donc, on n'entendra pas parler ça dans les médias français. Et pour cause. Moi, le 17 mars, à peine après dix jours après le discours du roi, Alain Juppé, ministre des Affaires étrangères, à la face de l'ONU, dans sa déclaration officielle française, il va citer le courage et la clairvoyance du roi du Maroc. Ça veut tout dire. Juste avant ou juste après, ça je l'ai cité tout à l'heure dans mon exposé, vous n'étiez pas là peut-être, l'ambassadeur adjoint de France à Rabat invite des jeunes du mouvement du 20 février pour leur dire attention, leur tirer les oreilles, attention, vous faites manipuler par la Voix démocratique, c'est un parti de gauche, et la Haïd Ul-Ihsan, un parti islamiste. Attention, vous mettez les pieds, etc. Donc votre mouvement, il est en train d'être noyé par les partis radicaux au Maroc. Et donc, voilà, c'est une ingérence diplomatique, on va dire, dans les affaires marocaines, pour, bien sûr, servir des intérêts. Enfin, on connaît les intérêts des officiels français au Maroc. Les Riyad, je l'ai cité en large dans mon exposé, vous n'étiez pas là aussi, les Riyad qui se vendent comme des petits pains à Marrakech, à Ouarzazate, etc., etc. Donc, et y a d'autres intérêts, bien sûr, d'autres intérêts politiques. On veut garder le Maroc, un carré, un précaré français, où on décide la politique française en Afrique. Et le Maroc joue un rôle très stratégique dans la politique française en Afrique. Et donc, voilà, on ne va pas lâcher le morceau. On ne va pas lâcher le Maroc comme on a lâché la Tunisie, par exemple. Voilà. Pour les marxistes-léninistes, je ne pense pas avoir dit que les marxistes-léninistes marocains ont été achetés ou vendus. Non, loin de là. J'ai dit que le roi du Maroc, enfin, l'État marocain, a utilisé la carte de quelques-uns qui se réclamaient du marxisme léninisme, qui étaient emprisonnés, et à la sortie, on les met dans des commissions consultatives pour essayer de tourner la page, pour dire, voilà, j'associe mes opposants à la politique, je gère la politique marocaine avec l'opposition. C'est plus vendeur, ça. Donc ça, c'est légitimé, donc un Maroc démocratique vitrine.
Voilà, je crois qu'on peut vraiment remercier Ayad pour tout ce qu'il nous a apporté. Et...